vendredi du mois de janvier. Non, nous sommes le deuxième. Ah, ben oui. On est le deuxième vendredi du mois de janvier.
C'était le 2, alors c'était un peu chaud là quand même.
Le 2 après ouais, la nouvelle année, c'était un peu dur. Ouais. Donc, c'est le vernissage à la radio Canal Sud pour tout le mois de janvier. Christophe Carré s'est installé dans la grande salle. Et donc, ce deuxième vendredi du mois, actuellement, c'est le vernissage. Il y a plein de monde dans la salle, il y a du monde dans le studio. Et on va essayer de parler avec toi de ton travail, aussi de ce que tu as présenté. Donc, cette expo, tu l'as intitulée « Migration au pluriel ». Et en fait, c'est rigolo parce que comme tu travailles de la photo et tout ça, on pourrait dire techniquement, ça migre aussi sur le papier.
Oui, ça migre.
Surtout que tu nous as étonnés avec des techniques. Alors, Christophe Carré, tu as déjà exposé ici un travail des photos où tu travaillais le minéral et l'abstrait. C'est-à-dire que les gens regardaient, c'est des peintures, c'est quoi ? Et surtout, tu travailles beaucoup des impressions de couleurs, d'ombres, voilà. Et là, on a des photos figuratives noir et blanc, on a des photos couleurs, on a des photos de nature, mais avec des arbres, on reconnaît les arbres d'ailleurs. On a quand même une expérience de cénotype. Ça, il va falloir que tu nous expliques. Alors, c'était il y a 2 ans, Pierre Sampé est venu ici présenter cette technique, mais pas du tout dans tes formats à toi, et pas du tout fait, il y a la patte de Christophe Carré là dans ça. Alors, tu commences par où tu veux sur l'expression de cette expo, ou sinon tout de suite on rentre sur cette technique un peu étrange.
Alors en fait,
comment dire ? Parce que tu es photographe quand même de base.
Alors bon, moi je suis...
Donc avec appareil photo.
Oui, ben, je suis photographe, voilà.
Et alors que le cénotype ?
Alors le cénotype, c'est aussi de la photo, en fait. Donc en fait, c'est une technique de développement alternative à l'argentique. Donc c'est à base de sulfate de fer, je crois. Je ne suis pas très bon, en fait, en technique.
Pyrocyanure, je crois, potassium, je sais pas.
Voilà, c'est un mélange. Et donc c'est le liquide qui permet de faire l'émulsion et le développement après. Donc en fait, c'est du fer au lieu d'être de l'argent. En fait. Mm-hmm. Voilà, l'argent, ça rend noir et blanc, et le fer, ça rend bleu et blanc. Mm-hmm. Et c'est une technique qu'on a vu se développer beaucoup ces derniers temps. Y a pas mal de groupes de photographes qui travaillent le cyanotype, qui font des très très beaux travaux. Donc il est possible avec le cyanotype de faire des virages, ce qu'on appelle des virages, c'est-à-dire en mettant des produits comme du café, du thé ou des épices pour faire que ce ne soit pas bleu. Après, le bleu, c'est vrai que ça a une espèce d'effet magnétique
qui
fait que les gens... des fois, on se demande si les gens ne trouvent pas que c'est beau, juste parce que c'est bleu, en fait, voilà. Mm-hmm. Et donc, bon, je me suis un peu essayé à cette technique. C'est vrai que...
Et toi, tu t'en es servi pour tirer des photos que tu avais prises avec appareil photo ?
Mais oui, alors, pour reparler de Pierre, Pierre, par exemple, il fait beaucoup de travail avec directement des herbes, je crois, ou des plantes. Mais après, le cyanotype, c'est une technique de développement, mais très, très, basique. Alors, moi, j'ai repris aussi, depuis quelques temps, j'ai repris l'argentique. Donc, je me procure un appareil, je fais de la photo noir et blanc argentique. À partir des développements, on peut faire un intérieur négatif. Donc tout ça, ça implique quand même un scan, malgré tout. Et cet intérieur négatif, on peut le faire de la taille voulue. Donc moi, j'ai fait des intérieurs négatifs à 4. Et ces intérieurs négatifs à 4, donc j'arrive avec mes feuilles de papier aquarelle, je les badigeonne avec cette émulsion. Je mets mon intérieur négatif, je mets une vitre par-dessus, je renverse tout ça sur une insoleuse, c'est-à-dire c'est un appareil, un espèce de coffre où à l'intérieur il y a des spots ou des néons, et avec une grande vitre, donc je pose ça, je referme ma boîte, j'allume les lampes, et au bout d'un certain temps, je sors le produit et j'arrête le développement en faisant un bain de rinçage comme un développement argentique.
Donc là, on est en fait...
Mais dans c'est une technique très, très courue en ce moment.
Là, on est dans la phase, parce que le photographe, il y a son regard, l'appareil photo, il fixe quelque chose. Ça, c'est le premier travail. Et toi, tu es dans la phase de présenter une œuvre à la sortie, quoi. En fait.
Voilà, alors que j'ai fait...
Sur le final, quoi.
Là, en fait, donc, on est toujours dans la photo, dans le tirage. Et ce tirage, je le prends, je le scanne. Et j'en ai fait des grandes affiches de 80 par 120. Du coup, c'est ce qui donne le fait que, bon, c'est grand. C'est, ouais. Et ça a bien fonctionné. J'ai eu peut-être de la chance. Mais en tout cas, donc c'est tout un protocole qui permet d'avoir ces grandes images à la sortie. Voilà.
Grandes images bleutées de nature.
Voilà, voilà.
Où les ombres et les lumières sont toujours là. On sent quand même très, très bien le paysage. Ce bleu ne nous fait pas une distance, en fait, par
non.
rapport...
Ben, d'autant plus qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des bâches que j'ai fait réaliser au même endroit. Donc en gros, les photos, là, ces grandes photos de cyanotype et les bâches, elles viennent de... C'est des photos des Dolomites. Et ces photos de Dolomites, elles existent parce que...
Tu précises pour les gens qui nous écoutent, tout le monde ne va pas en vacances aux Dolomites, donc on ne sait pas où c'est.
Alors les Dolomites, c'est au nord de la Vénitie et du Tyrol italien. Donc si vous êtes à Venise, tu vas toujours tout droit vers le nord et tu arrives dans les Dolomites. Et en fait, c'est des montagnes qui ont une forme particulière. Je ne sais plus quel scientifique qui avait déterminé que leur composition, comme par exemple au Grand Canyon, il y a des sables, etc., les Alpes, enfin, il y a le granit, tout ce qui peut être...
Minéral,
merci, je cherchais mes mots. La roche dolomitique, c'est une roche particulière qui a subi certaines pressions, certaines poussées, etc. Voilà. J'ai pas bien révisé ma dolomitie.
Non, mais si on parle des Dolomites, voilà. c'est pas pour leur géographie.
Non, alors donc c'est magnifique, ouais. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que bon, là j'étais sur un projet sur la famille. Et du coup, on était aussi allé dans les Dolomites parce que c'est l'endroit d'où sont partis les grands-parents de mon épouse pour venir émigrer en France, donc dans les années 20. Et du coup, c'est un projet. Donc j'ai voulu conserver dans ce projet ce qui fait un peu ma... Comment dire, ce qui m'a toujours attiré, c'est-à-dire les photos de nature, un peu
minéral,
mais aussi des arbres, comme tu as dit, ouais. Des sous-bois... donc j'ai cherché à garder ce qui fait un peu mon identité et que j'ai pas envie de jeter complètement aux oubliettes.
Des photos en plus où il n'y avait pas de personnage. Et donc,
voilà, donc j'ai associé à ces photos des photos d'archives. Et en fait, des photos d'archives donc, de la famille de ma femme, mais aussi de ma famille. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de parler de la rencontre. En gros, on est quand même dans un monde où on voudrait nous dire qu'être français, c'est ci et c'est ça. Mais en fait, on est tous issus de métissages incroyables. Et c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Et c'est aussi ça que je voulais dire avec cette expo. Donc en fait, j'ai utilisé des photos d'archives de la famille de mon épouse, de la famille de ma famille, donc côté maternel et côté paternel. Et j'associe ça à un texte pour montrer, en fait, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se serait passé si ces gens-là ils s'étaient rencontrés. Les Italiens, ils ont quelquefois été pas très bien reçus. Moi, dans mon village, dans le Gard, on recevait les Espagnols pas très très bien non plus. Pourtant, on leur demandait de venir, parce que, en l'occurrence, dans les Tarn-et-Garonne, quand ils sont arrivés, tous les hommes étaient morts à 14, à la guerre de 14, donc les fermes, elles étaient vides, donc il n'y avait plus personne pour nourrir la population. Donc il y avait quand même des vrais besoins, et c'est ce qui a fait que les régions, elles ont fait appel aux Italiens pour les faire venir. Ils ne sont pas juste venus comme ça, en balade. Et du coup...
Il y avait une nécessité.
Mes grands-parents maternels issus de Catalogne, mes grands-parents paternels, eux, franco-français depuis le XIIIe siècle, les paysans de souche, dont on avait fait un livre avec mon père que tu nous avais présenter aussi en 2014, voilà. Eh ben, tous ces gens-là, ils vivaient très mal tout ce qu'ils ne connaissaient pas. Et tous les gens, même le village d'à côté, c'était pour eux, c'était des étrangers, quoi. Et du coup, c'est un peu aussi pour présenter... Il y a un texte qui explique un peu comment ils vivaient les uns les autres, et pour bien montrer que finalement, c'était quand même des modes de vie assez comparables, même s'il y avait des différences. Et peut-être qu'aujourd'hui, s'ils se sont rencontrés, ces gens-là, ils n'auraient pas du tout la même façon de se rencontrer. Et peut-être que, finalement, ce n'est pas si mal passé que ça, puisqu'en fait, ces Italiens, ils ont bien pu s'intégrer au travers des générations. Il y a eu des mariages mixtes avec franco-italiens. Mais il y avait toute une stratégie aussi pour faire ça. Voilà.
Donc, il y avait quand même en commun, je trouve, la vie dure, la vie rude, c'est-à-dire le travail, parce que ces gens-là venaient pour le travail, et ils ont travaillé,
et
c'est ça qu'ils
beaucoup,
avaient en
beaucoup.
Commun, le travail de la terre, souvent, et c'est ça en fait qu'on voit, qui les rapproche, quoi.
Ouais.
Et toi, tu as eu envie d'appeler ça migration, par rapport au fait.
Alors,
que...
migration, histoire d'une rencontre.
Histoire d'une rencontre, voilà.
Voilà, c'est ça. Le titre.
Toi, ce qui t'intéresse, c'est la rencontre. Comment des gens.
C'est de. Ben, migration tout court, non, oui. C'est pas les gars qu'on traverse la Méditerranée sur des zodiacs, quoi. C'est une autre façon de se déplacer, qui est peut-être plus européenne.
Ils ont franchi les montagnes, donc.
Ils ont franchi les montagnes, il y avait des trains, il y avait des bus à l'époque. Alors, moi, dans ma narration, je présente des forêts comme s'ils avaient traversé des espaces sauvages avec leurs baluchons sur le dos, bon, c'est sûrement pas le cas, mais après, c'est moi, ma façon de présenter ce travail, parce qu'en fait, je veux pas non plus parler de ma famille, je veux parler de cette immigration qui fait qu'on est tous issus de l'immigration, quelque part, on est tous métèques, en fait, au fond,
et
heureusement.
Tu veux élargir le lien qu'il y a dans cette thématique de la migration et l'origine personnelle qui nous attache à un lieu particulier, à un lieu de naissance. C'est la raison d'être de cette exposition. Et du choix de...
Alors, oui, ça, c'est ce qu'on aimerait. Mais en fait, même ça, c'est faux. Tout est biaisé. Bien sûr, on est né quelque part. Bien sûr, on a une identité géographique. Mais en fait, si c'était si simple, il n'y aurait pas des gens, des Parisiens qui s'installent à Toulouse. Il n'y aurait pas des Toulousains qui s'installent en Bretagne. Et toi, enfant, ou moi, enfant, ou n'importe quel enfant, il a vécu dans un endroit... Et il s'imagine que tout ça, c'est son endroit.
Mm-hmm. Oui,
mais il n'a pas de dimension, il ne sait pas ce qu'ont vécu ses parents finalement. Ah, ouais. Peut-être pour ses parents, c'était juste un point de chute.
Et j'ai juste une question, est-ce qu'il y avait un reste de la langue? Est-ce qu'il y a eu les... Non, ça n'a pas passé depuis 1920, l'italien ou l'espagnol. Est-ce que ça a été transmis un peu ou est-ce que c'est encore utilisé?
Alors, il y a toute une communauté italienne.
Parce que ça, c'est
italienne.
Important, c'est la culture. Quoi,
enfin,
vois,
je veux dire, je pourrais peut-être interroger Jean-Claude, qui est ici, mais qui fait partie, qui a été présidé une association de ressortissants, enfin, de comment dire d'Italiens, immigrés, français, mais qui ont gardé les racines et la famille en Italie. Donc, ils font beaucoup de voyages et beaucoup de...
Ah oui, c'est vrai que tout le monde n'est pas parti, donc il en reste au pays, c'est ça, en fait.
Donc, il y a une très forte identité italienne qui est restée, c'est sûr.
Oui, oui, oui.
Vas-y, Jean-Claude.
Et vous avez des contacts, alors ?
Oui, bon, je me présente, Jean-Claude.
Bonjour.
Ouais. Alors, effectivement, mes parents sont nés en Italie, mon père comme ma mère. Et comme disait Christophe tout à l'heure, ils ont traversé les Alpes à pied, voilà, avec les difficultés de l'époque, comme par exemple, bon, j'ai une petite anecdote, si vous permettez, mon père qui a donc fui l'Italie parce que pour plusieurs raisons, d'abord politique, et puis...
Oui, c'était Mussolini à l'époque.
C'était Mussolini. Moi, je parle juste au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et les familles italiennes étaient très nombreuses. Ils avaient beaucoup, beaucoup d'enfants. Et les familles ne pouvaient pas donner à manger à tous leurs enfants. Donc, ils recevaient effectivement des demandes de la France qui cherchait de la main-d'œuvre. Et donc, mon père s'est trouvé dans un train qui a mené à Domodossola, juste avant la frontière de Modane, avec son frère, qui est mon oncle, donc, qui avait 23 ans, et qui avait donc une fille et sa femme, et mon père qui avait 20 ans, et donc ils sont arrivés à cette gare. Ils ont traversé les Alpes à pied, donc qui représentait quand même 24 heures de chemin à pied, passé par un col, et on leur avait conseillé de traverser la frontière le 11 novembre, parce qu'il y avait la fête l'anniversaire de la Première Guerre mondiale, et qu'il y aurait des services d'ordre qui seraient occupés à d'autres choses qu'à surveiller les migrants, voilà. Donc quand ils ont traversé, qu'ils sont arrivés à Modane, la police française les attendait, parce que bon, vous savez, il y a toujours des fuites,
il y a toujours Briançon en ce moment, on n'arrête pas d'en parler.
Il y a toujours des gens qui aident d'autres, et voilà, bon. Et mon père s'est retrouvé, il avait 20 ans, donc il était mineur, puisque la majorité a 21. Et aussitôt, il a été renvoyé dans un train pour revenir en Italie, et tout seul. Il avait 20 ans. Mon oncle, lui, il avait un papier avec quelqu'un qui voulait le faire travailler en France.
Promesse d'embauche, comme vous dire aujourd'hui.
Une embauche,
oui.
Voilà. Et lui, il a pu rentrer, donc il a pu continuer sa route. Ma tante, avec sa fille, en se cachant un peu, en passant par derrière, pendant, il a pu la suivre un petit peu, voilà, trafiquant un peu. Voilà. C'est une anecdote qui, je veux dire, ramène la difficulté qu'avaient à l'époque les gens pour survivre. Parce qu'en fait,
on parle des Alpes, l'Italie, on a eu toute la même chose avec les Pyrénées.
Et les Pyrénées, c'est pareil, l'exode, voilà.
Des passages,
voilà.
Les gens circulaient beaucoup.
Mon arrière-grand-père est arrivé, lui aussi, en migrant économique, en fait.
Oui, oui, c'est ça.
Il fuyait pas, à l'époque, il n'y avait pas Franco, il n'y avait pas tout ça. Mais en Espagne, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'argent, et du coup, ils sont venus s'installer dans le Gard, et c'est ça qui a donné lieu à la famille de ma mère, en fait, par la suite.
Et pour donc poursuivre bon le témoignage que j'ai eu donc puisque mon père ma mère est arrivée donc et puis a suivi tout le monde a un petit peu suivi et se sont retrouvés dans le Tarn-et-Garonne justement donc métayer dans une ferme chez cette ferme qui était tenue par un grand avocat de Toulouse et qui a été très gentil, mais c'était des relations qui se passaient très bien. Je me rappelle, tout petit, avec mon grand-père qui parlait italien, donc j'ai toujours un petit peu d'Italie.
Voilà, c'est ça la langue, un petit peu.
Il y en a encore. Oui. Tout le monde parlait italien. Quand on était à la maison, tout le monde parlait italien. À tel point que, par exemple, ma mère, qui n'est plus là maintenant, mais qui était très courageuse, très, très vaillante, a passé le permis de conduire, bon déjà, puisque mon père ne conduisait pas, il avait peur, et ma mère, elle avait besoin de s'intégrer, et donc, quand on passe le code, avec la langue italienne un petit peu, les difficultés qu'on pouvait avoir, mais elle passait outre tout ça, mais bon, c'était... on a du mal à s'imaginer aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça.
Et après, ce qui se passe, c'est qu'il reste de la famille en Italie et alors, en Espagne. Et est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que c'est
alors pour ce qui est de notre cas, ma mère a tout le temps voulu conserver des liens avec les familles qui sont restées là-bas. J'ai une tante, des oncles, on a des cousins aussi, et elle nous a inculqué aux enfants parce que j'ai un frère. Et de conserver le contact. Mm-hmm. C'est vrai que jusqu'à la mauvaise période du Covid, où nous, on allait les voir, où eux venaient, mm-hmm. et on gardait tous ces liens que nous avaient montrés nos parents. Après, ça s'est un petit peu arrêté avec la période, mais là, on a repris, pareil, des contacts. Enfin, on ne les a jamais perdus, mm-hmm. mais physiquement, on se rencontre, voilà. Mais c'est vrai que c'est tout. On a toujours cette idée, on a toujours en vision ses parents, ses grands-parents, et chaque fois c'est de l'émotion qui nous submerge parce que bon, c'est quand même une vie qui, je crois, on peut pas se l'imaginer comme ça. On a du mal, même moi. Des fois, j'y pense, je me dis mais comment ils sont arrivés à un tel point de survivre, je sais que...
Migrer pour survivre, quoi.
Voilà, je sais que, par exemple, mon père... bon, mais il n'y a pas que mon père, je parle de mon père parce que c'est... Mais je venais des fois... J'étais fier d'arriver de là où j'habite maintenant, qui est à 25 km de là où habitaient mes parents. Et j'étais tout content d'arriver en vélo. J'ai dit, j'ai fait ça. Et lui, il me disait, oui, mais moi, j'allais tous les jours. Je faisais 20 km pour aller au travail et je faisais 20 le soir pour rentrer. Je le faisais tous les jours, mais par besoin, par nécessité.
Voilà, alors justement, Jean-Claude, juste c'est pour dire, dans toutes ces similitudes avec les familles, il y a quand même, je veux dire, il y a aussi l'histoire d'une époque. Effectivement, la campagne, c'était pareil. Hein, moi, enfin, les gens, ils partaient, ça les faisait pas peur de faire 30 km à pied pour aller à un endroit.
Mais ça, c'est ce que je disais, c'est ça, c'est ce qu'ils ont de commun avec les Français. Exactement. Parce que les Français, dans les campagnes, vivaient dans les mêmes conditions.
Et je pense que, que ce soit en Grèce, au Maroc, en Italie, en Espagne... c'est pas du tout la même façon de vivre, de prendre le temps non plus. Enfin, c'était... Et du coup, effectivement, enfin, je pense que ça, c'est pas ce qui fait vraiment le point de différence absolue. Peut-être la différence absolue, c'est qu'ils ont été obligés de fuir, enfin, de partir, parce qu'il y avait un problème sérieux pour vivre, tout simplement.
Oui. Les Français l'ont un peu goûté à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y avait la ligne de démarcation, et tous les gens du Nord, ou en tout cas souvent de la capitale, ils crevaient de faim. Et souvent, alors, eux, ils ne sont pas partis, mais ils ont envoyé les enfants. Alors, des fois, il y avait de la famille ou des amis, mais ils les envoyaient dans le Sud, pour qu'ils puissent survivre, quoi. Et donc, c'est ça que je dis qu'il y a quand même des destins communs. Et un peu, ça montre la fatuité des frontières, quand même, parce que ces frontières qui partagent, là, quand il y a de la famille d'un côté et de l'autre, c'est quoi cette frontière, normalement, d'en pouvoir circuler, aller voir sa famille, tu vois, c'est quand même des choix sociaux qui sont très durs.
Ce qui est étonnant dans le village de l'arrière-grand-père, donc, parce que là, Jean-Claude, toi, ta famille, ils sont de côté de Venise, et puis, tu avais tes deux parents italiens. Nous, on a une famille où le papa était français, donc il y avait peut-être un désir d'assimilation... et d'ailleurs, toutes les filles, il n'y avait il y avait des garçons et des filles dans cette famille, mais toutes les filles, elles ont fait des mariages avec des Français. Donc il y avait une vraie volonté d'assimilation pour dire non, moi je ne suis pas plus italien que l'autre, je suis comme tout le monde. Okay. Bon, enfin, un peu imaginer n'importe quoi. Mais par contre, quand on est dans ce village, Salvadori, c'est le nom de cette famille, tu arrives au cimetière, tu as 80% du village. Des tombes, c'est du Salvadori. Et là, tu trouves un gars du coin, tu baragouines trois mots en italien, tu dis « Oui, je cherche Salvadori. » Mais moi, je m'appelle Salvadori. Ah, ben super. Et tout ça au milieu d'un décor fabuleux de montagne, avec des cols à 3000 mètres.
Ce que j'aimais bien aussi, ce que tu as dit aussi, c'est qu'on est de là où les origines, on est de là où on vit. C'est vrai qu'on a l'environnement, alors on peut aller chercher dans le temps et dans l'espace les arrière-grands-parents, etc. Et on s'aperçoit que justement les frontières sont nulles et que les gens ont circulé par nécessité, par besoin et tout ça. Oui, mais après, on est de là où on vit. Hein. Et Toulouse, par exemple, c'est un énorme exemple de réfugiés espagnols. Toulouse, ils sont tous venus, alors, par la guerre, par ceci, par cela, mais et beaucoup... et après, comme tu disais, avec des solidarités, avec des gens qui, parfois, les ont cachés puisqu'il fallait, ou des choses comme ça.
Alors, cette solidarité se retrouve même encore avec notre génération. Alors, on saute un petit peu, parce que les enfants... même peut-être, je pense que c'est volontaire aussi, puisque l'intégration est faite. Mais il y a des associations. Bon, moi, c'est vrai que, comme disait Christophe, je m'occupais d'une association. C'est-à-dire que mes parents faisaient partie de cette association. Ils y tenaient beaucoup parce qu'ils rencontraient d'autres Italiens. Tout ça, c'était la Dante Alighieri, qui est une association qui existe dans le monde entier. Et ils aimaient se retrouver à Castelsarrasin, parce que et ils se rappelaient toutes leurs histoires, tout ça. Et donc, par respect pour mes parents, qui avaient cette association dans la peau, quand je suis allé à la retraite, bon, il manquait de président, donc j'ai dit, bon, je vais m'en occuper. Voilà. Mais maintenant, on saute une génération de plus. Voilà. Et c'est vrai que les jeunes sont enracinés davantage, et donc ils trouvent moins la nécessité de reparler de cette époque, de ces moments, de ces...
Mais c'est tout à fait logique. Il y a peut-être la curiosité, mais parfois il n'y a pas la transmission. Parfois il y a une espèce de retenue, peut-être, non ?
De retenue. Moi, de mon analyse, moi, c'était plutôt parce que les jeunes sont complètement intégrés maintenant. Mm-hmm. Et puis on a les échanges, tout ça, qui sont plus... Ils n'ont pas la retenue qu'il y avait à l'époque, parce qu'à l'époque, quand même, c'est vrai qu'il y avait quand même... on le dit bien, macaroni, tout ça et tout. Bon, et
ah
tout
oui,
le
oui,
monde,
il y
tout
racisme,
le monde connaît.
Racisme,
oui, voilà, toujours. C'était.
Aujourd'hui, j'en ai d'autres qui trinquent. Hein, c'est pas les mêmes, mais il y en a toujours qui trinquent.
Voilà, 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 c'est toujours. Sûr. Mais pour l'Italie, je veux dire, les gens ont oublié cette période de scission.
Et ma question sur la langue n'était pas innocente parce que je trouve que c'est important. La France a imposé le français sur tout le territoire contre l'occitan, contre le breton, contre ceci. Et alors les étrangers et vous aviez des incites qui vous disaient si l'enfant réussit pas à l'école, c'est parce qu'il est bilingue ou trilingue à la maison, ce qui est exactement l'inverse. Ouais. Plus on connaît de langues, plus on est ouvert et plus on peut échanger. Et il y a eu quand même des blocages pour assimiler que le français. Et encore aujourd'hui, on vous donne des papiers si vous parlez bien français, sauf si vous vous appelez Georges Clounet, c'est pas mal, c'est autre chose.
Oui,
c'est pas suffisant.
Mais on vous impose cette assimilation de la culture française, alors que la culture française devrait assimiler et échanger avec les autres cultures.
Alors il y a eu un grand mouvement régionaliste là il y a quelques années, il y a quelques décennies, je devrais dire peut-être. Ça passe très
bien. De quoi régionaliste
C'est qu'en Bretagne on parle breton, qu'en Occitanie on parle occitan. Tu vois le métro, Kabbalah, Esquerda.
Oui, mais ça, c'est, il le parle mal.
Tu dis folklore.
Il le prononce mal.
Mais on a quand même une radio Occitanie. On a quand même les calendriers qui existent.
Oui, oui, oui.
Ce que je veux dire.
Mais ça, c'est urbain. C'est très urbain, ça. Or, moi, je pense que la culture. Je suis en milieu rural. Et c'est plutôt rural, le fait d'avoir gardé cette langue, d'échanger. Parce que le problème, là, on se sert de la langue, mais je ne sais pas pourquoi. Tandis que là, les gens, ils échangent. Ils ont des choses importantes à se dire dans leur langue.
Les gens qui étaient sur les photos, là, certains, ils parlaient beaucoup occitan.
Oui.
Ils me parlaient, ou provençal, moi c'est le provençal, c'est une forme d'occitan.
Ils
parlaient, alors j'avais deux choix, soit je faisais semblant de comprendre, soit je comprenais quelques mots, j'étais un peu perdu, parce que moi je suis allé à l'école française, quoi, voilà.
Oui, mais quand on est baigné, quand on entend une langue...
Mais c'est vrai que l'État français a tout fait pour essayer de normaliser les populations.
Ouais. La France, c'est quand même une des particularités sur ses colonies, sur ses colonisés, sur ses immigrés, c'est qu'il faut en faire des Français.
Ouais.
C'est-à-dire que tu n'existes plus. Alors comme que c'est
Romains.
Exactement l'inverse. Les Anglais n'ont pas tout à fait cette coutume-là. Et moi, je me rappelle, il y a des années, en Angleterre, le genre Pôle emploi, là, vous savez, ces trucs, il y avait toutes les langues. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un lui parlait en indien, un autre, il y avait toutes les langues. Alors, je ne sais pas si ça l'est encore aujourd'hui, mais à une époque, c'était la tradition, on respectait la langue de l'autre.
C'est beaucoup plus communautaire aussi.
Ben oui,
mais
c'est
du
pas...
coup, le Pakistanais reste Pakistanais toute sa vie aussi.
C'est vrai que.
Alors, quand le temps passe, on va voir si on continue. Je voudrais quand même dire deux mots. Voilà, ça, c'est bon, tu voulais.
Oui, c'est bon.
Merci beaucoup pour ton témoignage. Je voulais revenir un peu sur cette expo, parce que justement, autour des migrations, pas forcément que la famille c'est comme un support, où tout nous explique et tout nous met les photos en noir et blanc figuratives, et après il y a ton
travail. Alors c'est photos d'archives on appelle
d'archives,
ça, donc c'est pas moi qui ai fait ces photos, je les
ai sorties
des boîtes de
biscuits
dans les armoires,
tu les as choisies.
Et pour leur faire aussi, là j'ai choisi des photos qui soient plutôt des portraits, où les gens ils se présentaient sous leur meilleur jour en fait, dans les deux cas. Parce que ça permet aussi de donner, je pense, c'est une identité où ils se présentaient bien. Ils voulaient qu'on les connaisse en tant que monsieur.
Il y a une série de photos que je vous demande des explications. Okay. Elle est au coin à gauche, là-bas.
D'accord.
Donc on voit des, je ne sais pas si c'est des soldats sur la montagne,
oui.
En plus d'autres. Et puis après, il y a au bord de la plage, un monsieur qui rampe.
Ouais.
Avec quoi? Avec des singes? Avec
qui rampe.
Quoi? Ah ben,
on
dirait des dinosaures, et on dit non, il ne peut pas photographier des dinosaures, Christophe, quand même.
Alors,
c'est
non, en fait, ce que tu as pris pour la plage, ce n'est pas une photo rasante, c'est une montagne, c'est la neige, et ils sont en train de grimper dans la neige. Et en fait, si tu veux.
Mais alors, ils sont énormes parce qu'ils sont tous.
C'est un clin d'œil aux Dolomites, donc cette série-là qui est là à gauche, donc c'est des tirages. Alors en fait,
c'est
plein de tirages, 18-27, pourquoi ? Sur papier libre, pour pouvoir raconter une histoire de façon plus fluide. Donc là, c'est cette partie-là. C'est
les montagnes, c'est les Dolomites.
Les Dolomites, l'épisode qui s'est passé avant les années 20, avant le départ de l'arrière-grand-père. Alors eux, à cette époque, ils avaient aussi Mussolini qui arrivait au pouvoir et qui commençait à rendre la chose dure à tout le monde. Mais avant ça, il y a eu la guerre de 14. On a pris les petits gars italiens, les paysans, les gens comme ça, on les a mis en haut des montagnes, à creuser des tranchées à 3000 mètres sur des choses très très friables. Donc il y a eu beaucoup plus de morts qu'à cause des combats. Les Autrichiens, même chose. Et ils se tiraient dessus, alors qu'en fait, ils partageaient les pâturages depuis des siècles, ces gens-là.
Ça, on l'a toujours dit, la guerre.
Et donc, j'ai rebondi sur le fait que moi, j'ai un oncle qui n'a jamais été le bien-aimé de la famille. Il était célibataire, il était un peu bourru, enfin un peu... Mais moi, il se trouve que je travaillais dans les vignes avec lui, étant enfant, etc. Ce gars-là, il a fait les chasseurs alpins. Et donc, il m'a donné des images qu'il a ramenées des chasseurs alpins. C'est des images de sa compagnie en train de crapahuter que j'ai pu récupérer. Et du coup, j'ai collé ça avec les photos des Dolomites parce que ça sert le discours. Mais en fait, c'est aussi une façon de dire que cette expo, elle ne parle pas de ma famille. C'est plus... Des échanges, des rencontres, des migrations. C'est plutôt ça que... je me suis autorisé le balancer là. Lui, dont personne n'a jamais regardé ses photos, jamais personne s'est extasié sur les photos qu'il avait dans sa boîte de biscuits. Mm-hmm. Il n'avait pas d'enfant, hein, enfin, voilà. Et là, c'est la première fois que... Je suis très content. Enfin, ça s'est fait comme ça, un peu à mon insu. Donc, mais du coup, je suis content de le mettre à l'honneur de cette façon-là.
Peut-être l'intituler Dolomite, parce que je t'assure
Il n'y a pas d'intitulé. Non, c'est tu te débrouilles, là.
Alors, on se débrouille, justement. Et c'est intéressant, comme quoi, la photo. Hein. On arrive devant une photo. Et si on n'a pas les clés ou le...
Mais c'est écrit dans le texte. C'est écrit dans le texte. J'écris... J'ai écrit que mon oncle était parti.
Je t'assure, à la fin de l'entretien, je vais t'amener devant la photo. Je vais t'amener. Et un néophyte, qu'est-ce qu'il voit? Et alors là, on s'est tous posé des questions.
Non, mais c'est un piège parce que c'est dans le texte, dans le grand texte qui est de l'autre côté de la pièce, où il y a ce passage qui décrit qu'est-ce que c'est ça. Mais il faut avoir...
Il travaille, oui, je sais.
C'est un peu... Mais justement, c'est pour que chacun puisse s'approprier le truc à sa manière. Moi, je ne veux pas raconter mon histoire. À moi. C'est plus.
Donc, l'expo de Christophe Carré, qui est dans les locaux de la radio Canal Sud pour tout le mois de janvier, en fait, est très multiple, puisque vous y verrez des grands panneaux de couleur bleue, mais vous y verrez aussi ses travaux de photos, puisque quand tu dis qu'il y a une bâche, il y a une grande bâche.
Il y a deux bâches,
Où c'est l'eau qui a fait l'argile.
C'est de la boue.
C'est de la bouffe.
Donc tout ça, c'est photo de Dolomites. Il y a aussi une espèce de photo qui est prise sous une cascade avec du sable et une espèce de table en grès magnifique.
Oui. Du coup, on dirait qu'elle sort de...
C'est un petit côté anthropologique, si c'est préhistorique ou quoi, mais peut-être c'est les gars qui venaient juste se mettre là à l'abri. Quand il pleuvait, les bergers, je ne sais pas. On peut imaginer tout ce qu'on veut et c'est fait pour ça.
D'accord. Donc, est-ce qu'on peut, tu peux nous donner des contacts, des coordonnées par Internet pour qu'on voit tes autres travaux ou ce que tu as fait?
Alors, bon, mon site est moyennement à jour, mais c'est christophe-carré.fr.
Alors, carré, C-A-2-R-E-T.
C-A-2-R-E-T. Et en fait, je vais aussi effectuer des permanences.
Oui, tu l'as noté.
Je l'ai noté sur le papier. Donc, je sais que demain, de 11h à 15h, je serai là. Il y aura aussi le mercredi 21.
Alors demain, c'est samedi 10.
Dimanche. Dimanche, de 11h à 15h. Mercredi 21, de 18h à 20h. Jeudi 29, vendredi 30, de 16h à 19h. Samedi 31, de 11h à 17h, avant le décrochage. Voilà.
Et après, c'est affiché sur la vitre tout de suite.
Voilà, mon numéro de téléphone, pour ceux qui voudraient visiter l'expo de façon plus... plus apaisé à un autre moment, donc c'est 06 52 38 23 92 ou christophe.carré@free.fr. Voilà,
ben on a débordé, mais c'est pas grave, c'était l'entretien du mois avec Christophe Carré. Merci beaucoup pour cette belle expo visible tout le mois de janvier au 40 rue Alfred Duméril dans les locaux de la radio Canal Sud.
Eh bien, merci Chantal, merci Fabien et merci à tout le monde.